Chapitre 26. Anna Ruben, suite. 1970. Anna a 28 ans quand elle reçoit un coup de téléphone de Jean. Lui en a 20. Vous êtes Anna Ruben?
Oui.
Bonjour, je m'appelle Jean Septembre. Elle sait qui est Jean. Tous les musiciens savent que Jean Septembre est un pianiste surdoué, sorti premier du Conservatoire National de Lyon en 1968. Pourquoi m'appelez-vous? Elle a le souffle court. Elle espère qu'il la contacte pour créer une pièce musicale. Un duo piano-violon ensemble, que lui aussi a entendu parler d'elle. J'aimerais vous rencontrer. J'ai quelque chose de très important à vous remettre. Je ne peux pas vous en parler au téléphone. Où vivez-vous? Elle entend un rire gêné avant qu'il réponde. Chez Elia et David Lévitan, enfin mes professeurs. Je n'arrive pas à les quitter. Donc vous êtes à Lyon?
Oui,
quand je ne joue pas. Je suis pianiste.
Je sais.
Vous serez à Lyon samedi ou dimanche?
Lundi.
Je serai à Lyon lundi.
Et moi je serai partie.
Ah. Je joue à Paris à partir de lundi. Un enregistrement des Brandebourgeois au studio d'Avou. Je serai à Paris toute la semaine prochaine. Vous êtes musicienne?
Elle est piquée au vif.
Il ignore qui elle est. Elle hésite à répondre et finit par lâcher, froissée. Violoniste. C'est merveilleux. Sa réponse la surprend. Je vous propose de nous retrouver à Paris, ajoute-t-il. Je vous attendrai à la sortie du studio d'Avou mardi soir si vous êtes libre.
Très bien.
Et il raccroche, sans préciser l'heure, sans qu'elle demande en quoi c'est si important. Le mardi suivant, il est là lorsqu'elle quitte le studio à 19h. Il patiente depuis 3 heures, assis sur un banc, transi de froid. Immobile comme une statue, blanc comme un flocon de neige. Elle le reconnaît, quand lui n'a aucune idée d'à quoi elle ressemble. Elle s'approche de lui. Je suis Anna Ruben. Il ne s'attendait pas à elle. Elle est extrêmement jolie. Il pense avec ce mot, extrêmement. Elle a un nœud bleu ciel dans les cheveux, qui rappelle le printemps alors qu'on est en hiver, et porte son étui de la main droite. Elle le regarde sans sourire. Jean se lève, il est grand et reste planté là, à la fixer en silence. Venez, l'entraîne-t-elle. Il fait froid. Il y a un café au coin de la rue. Ah, et puis non, j'ai faim. Vous m'invitez à dîner?
Oui.
Et il ajoute, avec plaisir. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. En dehors de mon piano, j'ai du mal à vivre avec les bonnes manières. Je vous cherche depuis 1 an. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous ai cherché, Anna Ruben. Le restaurant, rue Auguste Chapuis, se remplit peu à peu. Comme ils sont arrivés de bonne heure, ils ont été servis les premiers. « Ce soir, c'est choucroute et riesling à volonté », a annoncé le taulier. Anna dévore son plat. Jean se demande comment une femme aussi mince peut manger autant. On dirait qu'elle n'a rien avalé depuis des jours. « Excusez-moi », finit-elle par dire. « Quand je joue, je ne me nourris que le soir. La journée, je préfère travailler le ventre vide. » « Pourquoi vous me cherchez, Jean Septembre ?» Et comme si elle avait peur de ce qu'il allait dire, elle enchaîne. Il ne peut pas en placer une. Jean n'a jamais dîné en tête-à-tête avec une femme. Comme elle en est déjà à son 2e verre de vin et qu'elle doit peser 40 kilos, elle est sûrement pompette. C'est Colette qui emploie le mot pompette quand elle parle d'un joueur ou d'un supporter qui a trop bu après un match. Anna lui montre les 2 gourmettes qu'elle porte au poignet, Anna et Marthe. Je les ai fait mettre à ma taille. Anna lui raconte que ce 2e prénom lui a sauvé la vie pendant la guerre. Qu'elle aussi a fait le Conservatoire National de Lyon et a obtenu le 2e prix. Mais il y a plus longtemps que lui puisqu'elle est son aînée. Et que c'est dommage qu'ils ne se rencontrent que maintenant parce qu'elle se marie dans 1 mois. Elle a hésité avant d'accepter car elle porte encore le deuil de ses parents adoptifs. Des gens merveilleux. Mon père, Benjamin Gravoin, médecin à l'hôpital de la Grange Blanche, et ma mère, Éléonore Gravoin. C'était une grande violoniste. Jean acquiesce.
Bien sûr, il a entendu des enregistrements de cette musicienne. Dans un débit effréné, Anna lui explique qu'elle est deux fois orpheline, que ses parents biologiques sont morts en déportation et ses parents adoptifs dans le crash d'un avion. Vous savez, la caravelle Béarn numéro 244, immatriculée FBOHB, le vol Air France 1611, Ajaccio-Nice Côte d'Azur du 11 septembre 1968. Le 11 septembre, répète-t-elle. Il faisait pourtant beau ce jour-là. Ils rentraient de vacances. Ils avaient décidé de passer la nuit dans le Vieux-Nice avant de remonter à Lyon. Mais une demi-heure après le décollage, le pilote a annoncé qu'il y avait un début d'incendie dans l'appareil, qu'il fallait qu'ils atterrissent au plus vite. Ils étaient 95 dans cet engin de malheur. Une heure après l'appel de détresse, on a retrouvé les débris à la surface de l'eau. Ils ont dit que c'était à cause d'un des chauffe-eau des toilettes ou de quelqu'un qui avait jeté une cigarette mal éteinte dans un récipient. Un feu qui se serait propagé. Comment des gens aussi bons que mes parents ont pu subir ça? Je vais vous dire, Jean, jamais je ne remettrai les pieds dans une église ou une synagogue. Jamais. À moins que ce soit moi qui porte malheur. Mes parents ont été exterminés deux fois de suite. Une fois à Auschwitz et une fois dans le ciel. 10 jours après le crash, le 21 septembre très exactement, un journaliste a déclaré que l'avion avait peut-être été la cible d'un missile pendant des exercices militaires. Un accident. Anna cesse de parler. Elle mélange le chou avec de la moutarde. Jean est incapable de prononcer un mot. Il reste silencieux dans le brouhaha qui les entoure. Comment pourrais-je lui annoncer ce que je suis venu lui dire après ce qu'elle vient de me raconter? Pense-t-il. Il aimerait avoir un piano sous la main afin de jouer ce qu'il a sur le cœur. Elle est musicienne, elle comprendrait un peu mieux que quelqu'un d'autre. Il ne peut pas lui dire que ça a commencé il y a un an. Il devait donner un concert pour les Guignonnais. Un concert gratuit de remerciement pour tous les habitants qui avaient participé à la tombola. Jean était arrivé au foyer municipal en début d'après-midi, avec Colette. Il avait été bouleversé de retrouver le piano de son enfance. Un accordeur devait venir d'Autun vers 15h. Colette s'était assise dans un coin. Jean s'était placé au piano. Il avait demandé à Colette ce qu'elle aimerait entendre. Elle avait répondu « N'importe quelle sonate de Chopin, s'il te plaît. » Il a joué Clair de lune. Colette était aux anges. Il s'était souvenu de ce que lui répétait son professeur David Lévitan. Sois inconditionnellement musicien. On ne se lance pas dans un morceau si on n'est pas fusionnel avec son piano. Au moment où il avait pensé ça, une touche s'était bloquée. Jean avait fini de jouer la sonate pour sa sœur malgré tout. Les pianos détestent voyager. Ils nous transportent vers le sublime, mais ont horreur de bouger, de changer de température. Les pianos sont casaniers, répétait David Lévitan. Celui-là n'avait pas dû apprécier le transport entre le château et le foyer. Jean avait dévissé le bloc pour attirer le squelette du Steinway vers lui. C'est là qu'il avait découvert qu'un bout de papier glissé sous un fa coinçait la touche. Alors que jamais il ne s'était manifesté. Jean avait mis du temps à déchiffrer les signes écrits à l'encre noire. Au début, il avait pensé à un jeu de Blaise lorsqu'il était enfant, ou à une note de l'accordeur. Et puis, il s'était souvenu que ce piano était arrivé au château sous l'occupation pour un haut gradé allemand en 1942, et qu'il avait ensuite été abandonné par le Reich à la débâcle. Eugénie de Sénéchal disait toujours ignorer sa provenance. Il avait montré le bout de papier à Colette. Ils étaient rentrés à la cordonnerie. Colette l'avait placé sous la lampe et s'était penchée longuement dessus. Sur un carnet, elle avait essayé de reproduire chaque signe en grand. À part la date, 1942, tout lui était étranger. Jean avait reconnu la langue maternelle d'Elia et David Lévitan. Elia ne lisait que des livres en hébreu. Elle les commençait par la fin et les parcourait de droite à gauche. David, lui, lisait en français et en anglais. qui avait écrit ce mot. Les anciens propriétaires de l'instrument? Un employé de l'usine où il avait été fabriqué? Où est-ce qu'on fabrique des beaux pianos comme celui-là? Avait demandé Colette. À Hambourg. Pour l'Europe, ils viennent tous de Hambourg. Le soir, Jean avait donné un concert de 2 heures. Il avait choisi plusieurs pièces de Beethoven, Chopin et Mozart. En jouant, il avait oublié le mot glissé dans son portefeuille, laissé au vestiaire. Mais lorsqu'il était rentré à Lyon et qu'à table il avait dit au lévitant « Au fait, regardez ce que j'ai trouvé sous une des touches du Steinway de mon enfance », son vieux professeur avait pris le papier, Elia était allé chercher sa loupe et avait traduit en français à voix haute « 1942, nous partons pour une destination inconnue. Si vous trouvez ce mot, c'est que je ne reviendrai pas. » Elia avait cessé de parler quelques secondes, puis avait repris. Ce piano appartient aux enfants d'Agnès et Raphaël Ruben. Un long silence avait suivi, un de ceux que Jean connaissait par cœur et auquel il était attaché à présent. Il avait fini par se sentir bien dans leur silence, dans leurs effusions retenues, leur amour tu, leur regard profond et lourd de sens. Mais ce soir-là, le silence s'était fait plus pesant que d'habitude. Le mot avait été écrit de la main de Raphaël. On l'avait appris beaucoup plus tard. Comment retrouver Raphaël et Agnès? Comment remonter jusqu'à eux? Ce piano pouvait provenir de France ou d'un pays voisin? C'est Eugénie de Sénéchal que les Lévitants avaient appelé pour retrouver la piste des Ruben. Or, on en comptait beaucoup, ne serait-ce qu'en France. De quelle nationalité étaient-ils? S'ils étaient français, dans quelle ville vivaient-ils? Avaient-ils été déportés? Si oui, où avaient-ils été arrêtés? 1942 correspondait aux grandes rafles. Quels étaient les noms des enfants évoqués? Combien d'enfants étaient concernés? Des membres de cette famille étaient-ils encore vivants? L'un d'entre eux avait-il été sauvé? Si oui, où se trouvait-il? À l'aide des listes de la Croix-Rouge, Eugénie avait trouvé plusieurs centaines de Ruben en France dans les années 40, disséminés à présent partout en Europe. Un an de recherche, un an de fausses pistes, un an de doute, un an le nez dans des listes de familles décimées, des numéros, des visages sur des photographies, et des convois de la mort qui partaient bondés et dont personne ne revenait. Trop de Ruben pour retrouver Agnès ou Raphaël, trop d'homonymes. Découragée, Eugénie avait eu l'idée de faire parler le piano. Comment n'y avait-elle pas pensé avant? Elle avait téléphoné à Colette pour qu'elle trouve son numéro de série, sans doute à l'intérieur, sur le cadre ou sous la table d'harmonie. Colette l'avait rappelé 1 heure plus tard, essoufflée. 289-019. C'est ainsi que Eugénie avait fini par découvrir que le Steinway avait été acheté quai Romain Rolland, dans le 5e arrondissement de Lyon, en 1937, par une dénommée Germaine Rouve. Il y avait une adresse dans les registres de livraison. Madame Rouve avait cédé le piano 2 ans après l'avoir acheté à une famille domiciliée à Lyon. Elle ne connaissait ni leur nom, ni leur adresse, mais elle était certaine qu'ils vivaient à Lyon et qu'ils étaient juifs. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça, madame ?» lui avait demandé Eugénie. « L'accent et le genre, » avait répondu Germaine. « Le genre ?» « Le genre propre sur lui, mais très israélite, si vous voyez ce que je veux dire. » Eugénie ne voyait pas, mais elle était tellement soulagée d'apprendre que le Steinway était resté à Lyon qu'elle aurait embrassé la femme. C'était donc Raphaël Ruben qui était venu essayer le piano. Il avait dit que c'était un cadeau d'anniversaire pour sa femme. Après l'avoir acheté, il avait organisé lui-même le transport. Germaine Rouve se souvenait qu'il avait indiqué habiter à 2 pas. Cette information avait permis à la marquise de les identifier aisément sur la liste des déportations fournies par la Croix-Rouge. Agnès, Raphaël, Sacha et Myriam Ruben avaient été arrêtés par la Gestapo le 16 octobre 1942, soit 4 mois avant la grande rafle de la rue Sainte-Catherine, sous le commandement de Klaus Barbie. Aucun des membres de la famille Ruben n'était revenu. Seule la Benjamine, une enfant de 2 mois, avait été sauvée par des justes, Benjamin et Éléonore Gravoin, des voisins et amis auxquels Agnès avait confié son nourrisson. 1 an de recherche pour identifier et retrouver Anna Ruben, née le 15 août 1942. Eugénie avait réussi. Sans le savoir, elle avait vécu des décennies près d'un piano volé à des innocents. Et ce même instrument avait révélé le talent d'un autre innocent, Jean. Merci Raphaël. Merci d'avoir glissé ce bout de papier sous une touche. Eugénie avait retrouvé Jean un soir après un concert et lui avait tendu un carnet sur lequel on pouvait lire « Anna Ruben, née le 15 août 1942, adoptée en 1947 par les Gravoin. » Une adresse et un numéro de téléphone. Jean avait attendu quelques semaines avant de se décider à téléphoner à cette Anna. Et maintenant elle était là, devant lui, dans ce lieu bondé aux odeurs de choux et de vin mêlés, à le regarder dans les yeux, attendant qu'il se décide à parler. Jean, qui n'a jamais bu d'alcool, se sert un verre de Riesling pour se donner une contenance. Et ne peut prononcer qu'une seule phrase. « Le piano qui m'a sauvé la vie, c'est le vôtre. »